France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une mère de victime française qui porte plainte contre le géant Monsanto. Témoignage en début de journal de Sabine Grataloup, intoxiquée au pesticide glyphosate pendant sa grossesse. Au moment où les experts européens étudient la toxicité du pesticide, c'est un dossier suivi par Véronique Robérotte. Le ministère du Travail a-t-il créé lui-même une brèche dans ses ordonnances pour éviter une mobilisation des chauffeurs routiers? Au lendemain de l'accord signé par les syndicats, le patronat et les ministres concernés, nous développerons ce dossier social avec Anne-Laure Chouin et avec notre invité, l'avocat spécialisé, Maître David Guillouet. Un président ne devrait pas dire ça, version Emmanuel Macron. Retour sur la dernière sortie du chef de l'État sur les salariés licenciés de GMES dans la Creuse. Il ferait mieux, selon lui, d'aller trouver du travail à 2 heures de route de chez eux plutôt que de foutre le bordel en manifestant. Décryptage et rappel à la réalité du monde social avec Emma Sarango. Le groupe État islamique quasiment chassé du territoire irakien. L'armée de Bagdad a repris ce matin la ville de Hawija dans le nord du pays. Avec Eric Biegala, nous ferons le point sur les dernières poches de résistance djihadiste en Irak. Et puis au Niger, 3 soldats américains et plusieurs Nigériens tués dans une embuscade hier. La coalition anti-djihadiste réagit ce matin. Évolution de la situation au Sahel avec Nabila Hamel. Et puis dans la deuxième partie de la grande table, Olivia.
Eh bien, on attendra impatiemment le nom du nouveau Nobel de littérature qui devrait arriver. On sera ensemble autour de 13h. On réagira en fonction. Pour l'instant, rien à faire. Et surtout avec notre invité Vincent Kaufmann, professeur de littérature et de médias, nous parlerons de ce que les médias font à la littérature, c'est-à-dire que nous travaillerons, tricoterons autour de la figure de l'auteur, comment elle a pu changer depuis cette surmédiatisation, depuis ces dernières années, décennies. Voilà,
ce
avec vous Camille Manière, à partir de 2055.
Voilà un sujet qui donne des démangeaisons pour le moins aux décideurs européens. Interdire ou prolonger pour 10 ans encore l'autorisation du glyphosate, ce pesticide incontournable dans l'agriculture mondiale mais dont le caractère cancérogène défraie la chronique scientifique. Les 27 vont devoir prendre une décision sans cesse reportée au mois de décembre. Et aujourd'hui et demain à Bruxelles, le sujet fait l'objet d'une réunion d'experts européens. On y entend notamment des témoignages de victimes américaines du glyphosate qui ont porté plainte dans leur pays contre la firme Monsanto, laquelle commercialise, on le sait, le célèbre et controversé Roundup. Bonjour Véronique Robérotte.
Bonjour.
En France, des plaintes de ce type contre Monsanto, il y en a eu très peu jusque-là, mais vous avez rencontré une femme, une mère de famille française qui se lance dans le combat judiciaire.
Oui, je l'ai rencontrée l'année dernière au tribunal Monsanto, Sabine Grataloup, ce tribunal citoyen où était venue témoigner en provenance du monde entier des victimes du glyphosate. Sabine Grataloup, la voix tremblante, avait décrit alors le calvaire de son fils Théo. Théo, 10 ans aujourd'hui, a été gravement intoxiqué alors que Sabine, à l'époque enceinte, sans le savoir, utilisait, comme chaque année, 2 fois par an, du Roundup pour désherber son centre équestre. À la naissance, Théo présente de graves malformations. Il subit sa première opération chirurgicale alors qu'il est âgé seulement de quelques mois. Théo en est aujourd'hui à sa 51e opération. Il respire grâce à une trachéotomie. Au fil des années, Sabine Grataloup avance dans sa conviction que Théo a été victime in utero d'un empoisonnement au glyphosate. Après avoir longuement hésité à se lancer dans une bataille judiciaire, qu'ils savent d'avance longue, violente, Sabine Grataloup et son mari ont donc décidé de porter plainte contre Monsanto pour que cela n'arrive pas à d'autres.
Oui, porter plainte contre Monsanto, c'est loin d'être évident, on le comprend. Et Sabine Grataloup vous a donc expliqué pourquoi elle et son mari avaient décidé d'aller en justice.
J'attends avant tout que justice soit faite pour Théo, bien sûr, parce que c'est un petit garçon qui est extrêmement courageux, mais il va devoir faire face à ça toute sa vie. Et mon mari et moi, nous ne serons pas là toute notre vie, enfin toute notre vie, oui, mais pas toute la sienne. En novembre dernier, octobre-novembre, Théo a été opéré pour la 51e fois à l'hôpital Necker à Paris. Et là, les chirurgiens qui jusqu'à présent nous donnaient encore un peu d'espoir qu'on puisse fermer la trachéotomie de Théo à la fin de sa croissance, donc quand il aurait eu 18-20 ans, là nous ont dit non, ça va être très très difficile, très risqué. Tout ce qui pouvait être tenté a déjà été tenté. Il arrive au bout de 51 opérations à respirer à peu près, manger à peu près et parler à peu près. Donc les chirurgiens nous ont dit si on touche au larynx, on risque de déstabiliser une, deux ou trois de ses fonctions vitales. Et c'est un risque que eux ne souhaitent pas prendre. On s'est vraiment pris un coup de bâton sur la tête, on va dire. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. D'autres familles se sont reconnues et m'ont contactée en disant « Mais moi aussi, les malformations de mon enfant, depuis le début, je suis sûre que c'est dû aux herbicides. » Donc, je pense qu'il va y avoir des témoignages d'autres familles. Donc, ça, au moins, cet objectif-là, on peut dire qu'il est déjà atteint. Et je veux vraiment que les politiques prennent conscience que c'est sérieux, c'est réel, on n'est pas juste des écolos. Non, il y a
des écolos illuminés, c'est ça ?
Illuminés, voilà, exactement, parce que c'est souvent ce qu'on nous reproche, alors que je suis tout sauf ça. Je suis une créatrice d'entreprise, je gère une boîte depuis 20 ans, je sais ce que c'est que de faire face à des contraintes financières, économiques, réglementaires. Je l'ai vécu aussi dans mon précédent job, donc dans l'industrie chimique, mais le rôle de nos politiques, c'est quand même de protéger la population, de financer des études, des recherches pour trouver des moyens alternatifs et des aides pour aider les paysans, parce que c'est eux les premières victimes.
Un témoignage de Sabine Grataloup recueilli par vous, Véronique Robérotte, merci. Et puis, d'un point de vue politique, cette déclaration ce matin du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pour qu'il le redit, la France votera non, votera contre le renouvellement à 10 ans du glyphosate. Il l'a dit ce matin sur France 2, la France devrait proposer une interdiction donc du glyphosate en Europe dans les prochaines années. Plier plutôt que d'affronter une mobilisation des chauffeurs routiers. Le gouvernement a beau s'en défendre depuis hier, il a bel et bien accepté de créer une brèche dans ses ordonnances de réforme du Code du travail. On parle là de cet accord trouvé entre syndicats et patronats des transports routiers, secteur très stratégique où un appel à la grève a été lancé pour le 10 octobre. Bonjour Anne Lorchouin.
Bonjour Camille.
Hier donc, les ministres Pénicaud et Borne ont salué la signature d'un accord dans lequel elles ont été particulièrement impliquées, quitte à faire, on peut le dire, un accroc au principe même de leurs ordonnances.
Oui, malgré ces communiqués des deux ministres, cette nuit se félicitant donc de l'accord trouvé, accord qui selon elle a été adopté dans le respect des ordonnances, cela ressemble fort à une capitulation. Alors on rappelle rapidement que les routiers avaient peur de perdre toute une liste de primes, des primes qui ont donc été intégrées dans ce qu'on appelle les minima hiérarchiques, dans une convention de branche donc, et à ce titre des primes pas renégociables à la baisse. Alors tout cela ressemble à un artifice juridique qui permet de ne pas perdre totalement la face, en d'autres termes, une façon de concéder aux routiers leurs revendications en passant outre l'esprit des ordonnances sans non plus les réécrire ou les modifier. A priori, cet accord qui fait passer dans le champ conventionnel des éléments de rémunération qui auraient dû pouvoir être renégociés au sein de l'entreprise, cet accord pose plusieurs questions. La première, c'est si les routiers ont réussi à sanctuariser leurs primes, pourquoi d'autres secteurs ne pourraient-ils pas le faire? Ensuite, si le gouvernement décide de faire preuve de plus de fermeté avec d'autres secteurs, n'y a-t-il pas un favoritisme contestable, une sorte d'inégalité devant la loi? Cette espèce de cavalier réglementaire, à savoir le code des transports qui vient prendre à son compte des éléments de rémunération variable, ne va-t-il pas devenir un argument tout trouvé au moment des débats sur la ratification de ces ordonnances? Bref, tout ce que les ordonnances voulaient déverrouiller en le transportant dans le champ de l'entreprise pourrait potentiellement se voir reverrouillé par la branche, si tant est que les syndicats et les patronats s'accordent sur ce point. Il ne fallait pas braquer les routiers, a estimé le gouvernement, mais à quel prix, on risque de le savoir dans les jours qui viennent.
Anne Lorchouin, autant de questions, merci à vous. Vous restez avec nous, peut-être pour l'invité de ce journal, avec qui on va essayer de développer justement tous ces aspects, toutes ces questions. Bonjour David Guillouet.
Bonjour.
Maître David Guillouet, devrais-je dire, avocat spécialisé en droit social. Vous avez suivi donc ce feuilleton dont on parlait à l'instant qui a conduit à la signature hier de l'accord sur les transports routiers, sur la rémunération des chauffeurs routiers. Alors première question, première observation, cette implication des ministres quand les ordonnances prônent la libre négociation par branche, ça pose question chez vous, chez vos confrères ?
C'est évidemment éminemment politique, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a probablement un côté un peu schizophrène de la part du ministère, parce que même si le ministère s'en défend, à l'évidence, il s'agit d'une forme de contournement de l'esprit des ordonnances Macron. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein.
Alors à quel point de vue ?
Alors, d'un point de vue assez pratico-pratique, pratique, c'est que, comme vous l'avez rappelé à juste titre dans la présentation, l'esprit et la lettre d'ailleurs des ordonnances, c'est de faire redescendre la négociation collective vers l'entreprise et de promouvoir le niveau de l'entreprise sur le niveau de la branche qui a été taxé de tous les maux, comme d'ailleurs portant même atteinte au principe de libre concurrence. Et là, l'artifice. Alors, j'utilise le terme artifice à juste titre parce qu'en fait la lettre des ordonnances Macron n'est pas méconnue hein, parce qu'en fait c'est pour ça que c'est un contournement astucieux, c'est de faire remonter dans la branche en fait des éléments de rémunération qui en principe auraient dû être négociés au niveau de l'entreprise et en les passant dans les minima hiérarchiques qui est un domaine qui est réservé exclusivement à la branche sans possibilité de dérogation au niveau de l'entreprise, eh bien, on sanctuarise de ce fait ce 13e mois et de facto, on contourne un peu l'esprit de la loi Macron.
Alors, est-ce que ça crée un précédent pour d'autres secteurs, très concrètement ?
Alors, précédent, s'agissant d'ordonnances qui ont été publiées au journal officiel il y a à peine quelques jours, je pense que le terme est un peu fort. En tout cas, ça pourrait donner des idées, à l'évidence, oui.
Est-ce qu'il y aurait possibilité pour d'autres secteurs, par exemple, de contester une sorte d'inégalité devant la loi par rapport au secteur routier qui bénéficie d'un code des transports ?
Ça pose toute une série de questions qui ne sont pas que des questions juridiques parce qu'en fait ça nous renvoie d'ailleurs de manière un peu plus générale sur qu'est-ce qu'une négociation collective. Une négociation collective c'est avant tout un rapport de force. Et le code du travail avait cet aspect régulateur qui était que le code du travail, alors je mets de côté l'histoire du code des transports qui est encore autre chose, le code du travail avait un effet unificateur au niveau du territoire national. Dans la mesure où on décentralise la négociation collective, et là il y a cette espèce de contournement via la branche, on risque d'avoir un retour en force de conflits sociaux assez durs dans les branches qui ont la capacité d'avoir des conflits sociaux assez durs et qui du coup auront cette capacité justement à négocier des aménagements particuliers et puis à côté de ça, toute une série de secteurs qui ont moins de capacité de mobilisation, qui sont moins stratégiques pour les pouvoirs publics, qui eux seront peut-être un petit peu les abandonnés de la négociation. C'est ce qu'en tout cas c'est un pronostic qu'on peut faire.
Maître Guillouet, vous disiez tout ça était éminemment politique, on est sur un secteur très stratégique, on le disait, les transports routiers, ça redit aussi que quand il y a un rapport de force, tout est envisageable finalement dans la négociation avec le gouvernement.
C'est le principe d'une négociation et de la capacité de nuisance. Hein. Vous voyez comme moi quels sont les secteurs qui demain auraient probablement plus de poids que d'autres dans une négociation, que ce soit une négociation avec les entreprises ou une négociation avec les pouvoirs publics.
Alors vous représentez des entreprises hein, dans votre travail, dans votre cabinet d'avocat. J'imagine que c'est quelque chose qui est peut-être en mesure d'affaiblir l'image du gouvernement et de sa politique chez vos clients.
Non. Très honnêtement, aujourd'hui, l'image du gouvernement est quand même extrêmement bonne auprès des employeurs. Nonobstant, cet accroc qui, j'imagine, est fait pour la tranquillité du pays et de la fluidité de son trafic routier, il faut quand même reconnaître que chez les DRH et les employeurs, les ordonnances Macron sont extrêmement bien vues. Donc là, on est un peu plutôt sur du domaine de l'épiphénomène lié au fait que je pense que personne n'a envie d'hérisser nos amis routiers.
Merci beaucoup, merci Maître David Guillouet. Donc, je le rappelle, vous êtes avocat spécialiste du droit social au cabinet Voltaire qui est présent à Paris, Lyon et Marseille. France Culture, il est midi passé de 43 minutes. Emmanuel Macron a-t-il un problème avec le monde ouvrier ? Question à nouveau posée depuis hier et cette déclaration faite au cours d'un déplacement en Corrèze. Refusant de rencontrer une délégation de salariés licenciés de l'usine GMES qui manifestait à Égletons, le chef de l'État a déclaré que plutôt que de foutre le bordel, je le cite, il devrait chercher du travail là où il y en a, dans cette fonderie qui cherche à embaucher à Ussel, à 200 km, 150 km de la souterraine. Alors cette sortie, une fois de plus, elle illustre le mépris d'Emmanuel Macron pour la réalité que vivent les Français, c'est en tout cas l'analyse qu'en faisait ce matin sur France Info le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob.
On a un président qui ne supporte pas la moindre contestation. Et il a dit des choses d'ailleurs encore plus violentes. C'est quand il dit que lorsqu'il est dans une gare, il y a ceux qui ont tout réussi, ceux qui ne sont rien. Mais quelle violence, c'est pas ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ne sont rien. Quand on est président de la République, on est en face de gens, et je pense que c'est ça la différence avec d'autres présidents, c'est qu'il n'a jamais été élu local. Et s'il avait été une fois dans sa vie élu local, confronté à une usine qui ferme, avec des familles qui viennent le voir, qui lui expliquent comment ils vont faire à la fin du mois, que leur conjoint vient d'être également licencié, qu'ils ont des dettes sur le dos, qu'ils ne savent pas comment ils vont finir le mois, il n'aurait pas ces propos-là. Il ne connaît pas la France. et il méprise les gens. Et c'est ce qui est de plus en plus insupportable de ce président.
Il devrait s'excuser, d'après vous ?
Il devrait d'abord arrêter ce genre de provocation d'enfant gâté. C'est vraiment l'enfant gâté.
Christian Jacob avec Jean-Michel Apathy sur France Info ce matin. Alors, méconnaissance peut-être aussi de la réalité sociale et humaine des licenciements en France. Emmanuel Macron, en tout cas, semble dire qu'il suffirait de prendre les 156 licenciés de GMS dans la Creuse, donc, pour combler les 13 postes vacants à la fonderie Ducel en Corrèze, à 150 km de là. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
On voit déjà que les chiffres montrent les limites de ce que propose le chef de l'État. Les choses sont loin d'être aussi simples qu'il n'a l'air de le penser.
Et pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment la compétence, car GMES, on le rappelle, c'est un équipementier automobile. Les ouvriers sont donc des emboutisseurs. Ils travaillent des feuilles de tôle, d'acier, et ils n'ont donc jamais de leur vie coulé de l'aluminium dans un moule. On est donc loin de la réalité quand Emmanuel Macron affirme que certains ont les qualifications nécessaires pour travailler dans cette fonderie. D'ailleurs, les syndicats de GMES le disent eux-mêmes. C'est comme si vous demandiez à un pâtissier de devenir soudainement plombier chauffagiste. Alors bien sûr, il y a la formation, la reconversion possible et envisagée d'ailleurs par certains, mais les plus jeunes, parce qu'il faut quand même savoir que la moyenne d'âge chez GMS est de 49 ans, et avec les licenciements elle grimpe même à 55 ans. Les salariés sont donc pour la plupart des seniors pour qui apprendre un nouveau métier ne se fait pas en claquant des doigts. Et puis une autre contrainte, visiblement oubliée par Emmanuel Macron, c'est la distance bien sûr. Vous l'avez dit, 150 km entre deux des départements les plus ruraux de France, ça représente aller-retour 4 heures de voiture, 46 euros pour l'essence et le péage, des dépenses en envisageable quand on est ingénieur, beaucoup moins quand on est ouvrier rémunéré au SMIC. Reste encore la possibilité d'un déménagement, alors en dehors des efforts logistiques et affectifs que cela demande à une famille installée depuis des dizaines d'années au même endroit, ce sont les conséquences pour l'économie d'un territoire rural qu'il faut prendre en compte. 150 salariés qui quitteraient la Creuse, déjà deuxième département le moins peuplé de France et qui peine ces dernières années à maintenir le seuil des 120 000 habitants, d'où la mobilisation des maires creusois dans ce dossier. Ce sont d'ailleurs eux et non les salariés qui était à l'initiative du rassemblement du bordel hier en Corrèze.
Merci beaucoup Emma. Sarango, dans l'enquête en bref sur les bonbonnes de gaz reliées à un système explosif qui avait été découverte à Paris il y a 5 jours, sachez qu'une 6e personne a été placée en garde à vue hier soir. Le suspect a été confondu, nous dit-on, par ses empreintes retrouvées sur les bonbonnes. Un homme qui serait fiché pour radicalisation. Et puis la solidarité des Français qui ne se dément pas. La Fondation de France a recueilli 10 millions d'euros de dons pour les sinistrés de l'ouragan Irma sur les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une somme qui va être répartie en aide aux associations de victimes, aide à la reconstruction aussi pour le rétablissement du réseau d'eau potable et des télécommunications à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Moins de 2 semaines après l'offensive, l'armée irakienne a repris ce matin la ville de Hawija aux djihadistes de Daesh, Camille Magna.
Oui, un bastion, mais surtout un des berceaux du califat autoproclamé dans le nord de l'Irak. Bonjour Éric Biégalin.
Bonjour Camille.
Si on regarde aujourd'hui la carte de l'Irak avec la perte de Hawija, on voit en fait que le groupe État islamique est quasiment chassé du pays.
Oui, si l'on regarde une carte générale de l'Irak, les taches noires par lesquelles la plupart des cartographes figuraient le terrain tenu par les djihadistes de l'État islamique, et qui a pu couvrir près d'un tiers du pays, se réduisent dorénavant à une toute petite zone à l'extrême ouest de l'Irak, deux petites villes sur l'Euphrate, Al-Qaïm et Rawa, à la frontière avec la Syrie. Cela signifie que, pour ce qui est du contrôle du terrain, la présence de l'État islamique en Irak est, pour ainsi dire, résiduelle. Mais cela ne veut pas dire que les djihadistes ont été chassés du pays. Ils sont toujours présents, ils disposent encore de forces militaires importantes et de capacités d'action offensive. D'abord par des attentats, il y en a pratiquement toutes les semaines à Bagdad. Le plus meurtrier, récemment, c'était le 14 septembre dernier, au moins 84 personnes ont été tuées dans un double attentat au camion piégé à Nasiriya, au sud de Bagdad, dans une zone du pays très majoritairement chiite, que l'État islamique n'a d'ailleurs jamais contrôlée. Et puis les djihadistes sont encore capables également de monter des opérations militaires, de véritables offensives. Il y en a une le 27 septembre, la semaine dernière, sur les faubourgs de Ramadi, capitale provinciale, reprise aux djihadistes il y a déjà près de 2 ans. Offensive avec voitures kamikazes bourrées d'explosifs, bombardements de mortiers lourds, suivi d'un assaut d'infanterie. Les forces irakiennes avaient réussi à repousser cet assaut, mais pour ce faire elles avaient dû lancer dans la bataille leur aviation, et vous le voyez Camille, même si l'État islamique ne contrôle plus beaucoup de terrain, il est encore en guerre en Irak.
Merci Éric Biégalin. J'ajoute qu'Emmanuel Macron recevait ce matin à l'Élysée le président irakien justement Haider El-Abadi, l'occasion de réaffirmer que la France restera engagée militairement en Irak jusqu'à la défaite complète du groupe État islamique et donc aussi longtemps que Bagdad le jugera nécessaire. Un théâtre de conflit à présent qui se rappelle régulièrement à nous, c'est celui où sont engagés des soldats français et leurs alliés au Sahel contre les différents groupes djihadistes réfugiés dans le désert et ses montagnes. Ce matin, on apprenait qu'une patrouille composée de soldats nigériens et américains a été prise dans une embuscade dans le nord du Niger. Un nouveau coup de force des combattants djihadistes qui a fait au moins 3 morts côté américain et plusieurs morts, on n'en sait pas plus, côté nigérien, Nabila Hamel.
Oui, les hommes lourdement armés qui ont mené cette attaque dans la zone de Tillaberi seraient venus du Mali. Difficile pour le moment de savoir qui est derrière cette embuscade meurtrière dans une région sahélienne où activent plusieurs groupes armés. Cela va d'Acmi à Boko Haram, sans compter d'autres nouveaux groupes créés dans les confins du Sahara et plus ou moins affiliés au gré de leurs intérêts à l'État islamique. Le Niger avait-il pressenti une telle menace? L'attaque d'hier contre une patrouille américano-nigériane a eu lieu malgré la prolongation de l'état d'urgence décidé à la mi-septembre dans la région de Tillaberi. Les autorités nigériennes avaient alors évoqué une situation sécuritaire fragile, aussi bien dans ce secteur du sud-ouest, proche de la frontière malienne, que dans le sud-est, proche du Nigeria, et donc avec risque d'incursion du groupe Boko Haram. C'est la première fois qu'une présence de soldats américains en opération est signalée dans cette zone, mais l'US Africa-Com, le commandement américain pour l'Afrique, dont le siège est en Allemagne, aurait déployé depuis 2006 quelques 1700 hommes, notamment dans une vingtaine de pays africains, avec pour mission officielle d'assister et de former les forces spéciales à la lutte antiterroriste. Le Pentagone reste relativement discret sur la nature de ces opérations, plus particulièrement au Sahel, au Mali, au Tchad, au Niger et au Burkina. Il s'agirait surtout d'opérations de surveillance des groupes djihadistes, notamment via des drones, des opérations destinées à récolter de l'information et à les partager avec leurs partenaires locaux et occidentaux présents dans la région.
Merci beaucoup Nabila Hamel. Une vie en fuite depuis plus de 40 ans. On apprenait ce matin l'arrestation au Brésil de Cesare Battisti, ancienne figure de l'extrême gauche italienne pendant les années de plomb. La justice italienne l'a condamné à la perpétuité. Battisti a d'abord échappé à l'extradition en France, puis en Amérique latine. Il était depuis 6 ans en résidence permanente au Brésil, mais les choses se sont gâtées à nouveau pour lui il y a quelques jours, le poussant à fuir à nouveau, cette fois vers la Bolivie. Une correspondance depuis Rio de Janeiro, signée Anne Vigna.
Cela faisait plusieurs années que Cesare Battisti n'avait pas fait les gros titres de la presse au Brésil. Mais il y a une semaine, le quotidien Au Globo titrait sur une information exclusive. Selon le journal de Rio, l'Italie aurait à nouveau demandé son extradition quelques mois après la destitution controversée de la présidente Dilma Rousseff en août 2016. C'est en effet la gauche brésilienne qui avait plaidé la cause de Battisti auprès de l'ancien président Lula. Ce dernier lui accordait l'asile politique à la veille de quitter le pouvoir en 2016. Sa dauphine, Dilma Rousseff, n'est jamais revenue sur cette décision, mais la situation semble être bien différente avec l'actuel président Michel Temer. Toujours selon Au Globo, deux ministres, le chancelier et le garde des Sceaux, auraient approuvé la demande d'extradition italienne. Cette information aurait sans doute précipité la fuite de Battisti vers l'un des derniers pays gouvernés par la gauche en Amérique latine et qui a une frontière terrestre avec le Brésil, la Bolivie d'Evo Morales.
Anne Vigna, d'un mot, on apprenait ce matin la mort d'Anne Wiazemski, romancière, actrice. Elle avait partagé la vie de Jean-Luc Godard. D'ailleurs, son roman Un an après avait inspiré le film Le Redoutable, en ce moment au cinéma. Anne Wiazemski avait 70 ans. Elle avait trouvé le film de Michel Hazanavicius émouvant et drôle. Et elle évoquait encore sa relation avec Jean-Luc Godard dans La Grande Table.
Oui,
Olivia, avec vous. C'était à Cannes. C'était le 22 mai 2017.
Voilà, à l'occasion de la présentation du film Le Redoutable à Cannes.
Extrait.
Et moi, je crois qu'il était de toute façon complètement à part. Mais avec cette espèce de flair de sentir les choses avant. Et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais il m'a utilisé beaucoup aussi pour ce que j'étais. J'étais une étudiante en philo, mais je lui ai rendu l'appareil. C'est-à-dire qu'il est devenu un de mes personnages. C'est un échange de politesse.
Anne Wiazemski, donc, sur Jean-Luc Godard. On peut retrouver ses interviews, bien sûr, en longueur, La Grande Table, et puis également Hors Champ, où Anne Wiazemski avait été invitée il y a quelques temps. Tout ça se retrouve sur franceculture.fr. Le temps pour cet après-midi, des éclaircies sur le nord et la Normandie, un soleil plus franc sur la moitié sud, mais un bandeau de pluie qui s'étend de Brest à Strasbourg, comptez 15 à 20 degrés, température maximale sur la moitié nord du pays, 20 à 27 pour le Sud. Le journal était réalisé par Yacine Bouzard. C'est Aurélie Kiefer qui vous livrera le prochain rendez-vous d'information sur France Culture. Ce sera à 18h.